Salut à tous et bienvenue sur Wata pour cette émission de la rentrée Wata numéro 5. Comment ça va les gars?
Ça va.
Alors l'été a été bon?
Ouais.
Oui.
Vous êtes bien fait dorer sur la plage?
Ouais, moi j'ai plutôt travaillé.
Oui, ça se voit un peu.
Ouais, ouais, je suis tout blanc, t'as vu.
On a des nouveaux venus, donc on a déjà Ju qui vous aviez vu pour l'émission de l'E3. On a Nico qui nous a rejoint, salut Nico.
Salut à tous.
Et on a Karim aussi qui nous a rejoint dans l'équipe. Salut Karim.
Ouais, salut à tous, alors, très content d'être là ce soir, très ravi de rejoindre le groupe, ça fait très plaisir.
Très content aussi. On va démarrer tout de suite par les news. Yes. Allez, c'est parti pour les news. Alors les news, on va commencer par toi Nono, tu vas nous parler de Battlefield 5.
Ouais, Battlefield 5 a été annoncé, ils ont fait une petite bêta sur PlayStation, Xbox et PC aussi je crois. Donc, quoi dire de plus, ça se passe à la Seconde Guerre mondiale, c'est un jeu qui est prévu pour le 20 novembre. Donc, tout le monde l'attendait un petit peu parce que juste avant ils avaient sorti un BF1.
Oui.
Et donc les news sur le jeu, ben elles sont pas très nombreuses. On a juste appris que bon, ben ça se passait à la Seconde Guerre mondiale, ça je l'ai déjà dit. Et tout à l'heure, je vous parlerai un petit peu de la bêta que j'ai pu tester, et je vous en dirai un peu plus. Aujourd'hui, on a appris que la grosse news de ce Battlefield, c'est qu'ils allaient proposer bizarrement un mode Battle Royale, comme sur Call of, PUBG, tout ça. Donc ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ça sera un mode multi vraiment à part de ce qu'on connaît sur les Battlefield. Et la petite dernière news qui est sortie, c'est que le mode pour l'instant est un mode à 64 joueurs et pas 100 joueurs comme on aurait pu l'attendre. D'accord. Et voilà, on n'en sait pas plus. Il y aura peut-être un petit mode qui va sortir. Non, ce que je voulais dire, c'est que le mode Battle Royale ne sera peut-être pas dispo à la sortie du jeu.
Ok, donc ils vont l'implémenter après.
Parce que les dernières rumeurs disent qu'ils ne savent pas encore quel sera le business plan du jeu. S'ils vont le mettre avec le jeu Battlefield 5 ou s'ils le sortent à part
en
free to play.
Comme Fortnite.
Exactement. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus. On sait que le jeu est prévu pour le 20 novembre. Et pour le mode Battle Royale, ils nous le diront dans les semaines qui arrivent.
D'accord.
Voilà.
Bon, je pense que bon, si tout le monde a vu comment ça se passait avec Fortnite, je pense qu'il y a de grandes chances pour que ce soit...
Ben, Call of, par exemple, ils ont clairement dit que le mode qui s'appelle Blackout, qui est le mode Battle Royale de Call of,
ouais,
sera dans le jeu. Tu es obligé d'acheter jeu pour pouvoir accéder au mode Blackout. Là, ce que sont en train de nous dire l'équipe de Battlefield 5, c'est qu'ils ne savent pas encore s'ils mettent le jeu, le mode Battle Royale, directement quand tu achètes dans le jeu, ou à part du jeu en mode free-to-play.
D'accord.
Voilà, on en sera plus dans quelques semaines.
D'accord. On va passer à Nico et Jus, hein, qui vont nous parler de DMC5. Alors, qui commence? Nico, allez, je t'en prie.
Alors, c'est parti. Alors, voilà, je vais vous parler de Devil May Cry 5. Donc, lors de la TGS qui a eu lieu là, il y a quelques semaines à peine, ils ont dévoilé donc du coup les premiers trailers et les premiers gameplays avec le personnage de Dante, qui pour moi est un personnage que j'apprécie beaucoup. Tant sur le plan physique que sur le plan de ses coups, etc. Donc il a été annoncé dans un premier gameplay. Pour ma part, je l'ai trouvé intéressant. Donc, je demande à voir quand même le reste parce que les gameplays étaient assez courts. Donc pour avoir une idée assez précise de ce qu'on aura, je pense que c'est pas assez. Mais pour moi, je pense que c'est un bon début. Et surtout, voir ce personnage être de retour après aussi longtemps, ça fait plutôt plaisir, c'est très agréable.
Ouais, tout à fait. Ben, moi, j'ai été bien séduit. Ben, comme la dernière fois, on en avait parlé, c'est ma cam. Du coup, bien emballé. Et comme il dit Nico, ben, c'est vrai qu'après, les gameplays sont choisis, c'est monté, c'est bien coupé pour que ça envoie. Donc, on peut juger, mais on sait pas trop. Mais comme il dit, juste le retour de Dante, déjà, c'était énorme. Juste la petite fin d'apparition sur sa vidéo de présentation là, à l'E3, je crois que c'était, qu'on le voyait à la fin en moto. Et là, on le voit se servir de sa moto, il ouvre en deux, il découpe avec et tout. Donc ça a l'air assez foufou. Donc grosse attente. Donc, le petit bémol, ça va être le pay to win qui a été annoncé. Donc ça fait un peu jaser.
Et c'est officiel ou pas?
Ouais, l'apparence officielle, parce que le producteur du jeu, là, ouais, le producteur ou le directeur, il a communiqué dessus, il a dit
donc
que...
Donc moi, en gros, de ce que j'ai lu, c'est si tu veux une arme, tu vas te taper 100 heures pour l'avoir, alors que si tu payes 5 euros...
Non, ça va pas être... Je pense pas que ça va être au niveau des orbes. C'est les orbes rouges, c'est-à-dire que t'as un système où t'achètes tes compétences avec les orbes que tu gagnes en tuant les monstres.
Donc t'achètes des orbes.
Voilà, c'est le système d'évolution du jeu, et là, tu pourras acheter les orbes rouges avec, avec ta carte bleue. Voilà.
C'est super.
Hein. C'est génial.
On va passer à Landry qui va nous parler surprise du Nintendo Online.
Et oui, parce que depuis le 16 septembre, la connexion sur Internet pour la Switch est devenue payante. Donc nous nous retrouvons. C'était le dernier bastion du jeu vidéo gratuit et puis en tout cas du jeu vidéo en multi gratuit. Et puis depuis le 16 septembre, il faut passer à la caisse. Alors, le Nintendo Online donc propose trois tarifs. Je fais très vite. 3,99 pour un mois, 7,99 pour trois mois et 19,99 par an. Ça, c'est pour un compte unique. Si vous avez une console avec un seul compte dessus, c'est ce prix-là. Si vous avez besoin d'un abonnement famille, c'est-à-dire jusqu'à 6 comptes, c'est plus cher. C'est 34,99€. Alors, le seul intérêt qui est bien avec Nintendo, c'est que quand on achète beaucoup de jeux en démat, des petits jeux ND dont nous parlerons tout à l'heure on a des points My Nintendo et on peut s'en servir pour faire baisser le prix de l'abonnement. Donc du coup, moi par exemple, j'ai pris un abonnement donc famille parce que voilà, mais j'ai un compte avec une petite fille gameuse et je l'ai payé beaucoup moins cher que l'abonnement pour un an.
J'ai une question là.
Ouais. Non.
Est-ce que dans le mode payant maintenant de Nintendo, est-ce que tu as, comme on peut trouver sur surtout Xbox et PlayStation, des créations de groupes, de chat, tout ça ?
Alors, les créations de groupes de chat, c'est une usine à gaz. Ah. Puisqu'il faut utiliser l'application Nintendo sur ton téléphone portable.
Ah d'accord.
Donc en gros tu veux communiquer avec
donc il faut un abonnement internet sur ton téléphone.
Ah il faut ton téléphone, il faut que tu aies l'appli sur ton téléphone.
Donc finalement le bas prix qui est proposé est finalement plus cher que ce qu'on peut trouver sur Play ou machin, parce que t'as quand même un service online qui est complet, quoi.
C'est Nintendo, ouais, c'est-à-dire que donc les gars, tout le monde. Après bon, il y a les sauvegardes, il y a la sauvegarde de
payante.
Données non quand même pas, ils vont pas aller jusque là sur le cloud.
C'est 3,90€
la sauvegarde sur le cloud.
Non,
donc
ça c'est un scandale aussi, hein.
Sauf que certains jeux ne sont pas élu pour ça, c'est-à-dire par exemple Splatoon 2, on ne peut pas faire de sauvegarde sur le cloud de son profil puisque Nintendo considère que ça serait un moyen de tricher, puisqu'on pourrait relancer le truc. C'est-à-dire le problème, c'est qu'en gros Nintendo veut mettre en place une infrastructure serveur, mais apparemment veut pas la gérer. Donc en gros c'est ça l'idée, quoi.
Il y a aussi le fait que sur le cloud, en fait, tu vas pouvoir garder. En fait, si tu repayes pas ton abonnement, tu vas garder tes sauvegardes 6 mois. Durant ces 6 mois, tu ne payes pas, tu perds tes sauvegardes.
Voilà, au bout de 6 mois, tu sors.
C'est énorme.
C'est Nintendo.
Les sauvegardes, c'est sacré.
Ah ouais.
Bon, honnêtement, le vrai problème, c'est si vous êtes un joueur de Splatoon 2, de Mario Kart en réseau, à un moment donné, vous aurez pas le choix, vous serez obligé d'y passer. Et maintenant on va pas faire les vierges effarouchées. Sony et Microsoft le font depuis des années. Le problème à un moment donné, c'est le service qui est proposé par Nintendo.
J'étais anti service online il y a très longtemps. Microsoft en réussit quand même à proposer un service de qualité, vraiment de qualité online, que je pouvais retrouver uniquement sur PC par exemple. Faut savoir que sur PC, ce sont les boîtes de jeux qui créent leur serveur pour que tu puisses jouer dessus. Microsoft a créé leur propre serveur. Le système qu'il y avait sur Sony marchait plus ou moins bien sur la PS3. Parce que les serveurs étaient un peu partagés entre Sony et les éditeurs, donc c'était un peu compliqué. Ce que moi je trouve, ce que t'as dit sur Nintendo, moi je trouve ça inadmissible, mais ce qu'a fait Sony aussi, je trouve ça inadmissible. Je crois que ça a changé il y a pas très longtemps, parce que Sony a investi sur des serveurs. Mais à la sortie de la PS4, c'était le même système réseau serveur, sauf qu'il est passé payant. Et ça, c'est bien qu'on le dise, parce que Nintendo, ce que font Nintendo, ce que font Sony et ce qu'a pu faire aussi Microsoft à un temps, c'est vraiment prendre les gamers pour des cons. Mais vraiment, tu sais, nous, ce qu'on veut en tant que gamers, pourquoi pas payer un service de qualité, mais il faut que ça marche.
Maintenant, je suis d'accord. Moi, bon, voilà, c'est leur politique tarifaire. On n'a pas le choix. À un moment donné, où on n'achète pas et puis c'est terminé. Bon, après, il y a une offre de jeux. Alors, c'est des jeunesses. Très bien, au pixel perfect. Ouais. Enfin, voilà, c'est génial. Mais honnêtement, c'est une offre. C'est pour le moment, le compte, de mon point de vue, le compte n'y est pas. Voilà.
Allez, Karim va nous parler de la PlayStation classique.
Ouais, alors la PlayStation classique, ce que l'on sait, ben, en fait, pas grand-chose. Non, en fait, plus sérieusement, on sait déjà qu'elle sera 45% plus petite que celle qui est sortie à l'origine. Elle sera livrée avec deux manettes qui ne seront pas les DualShock, ce seront les manettes classiques. Ensuite, elle sera aussi livrée avec une liste annoncée de 5 jeux, à savoir Ridge Racer Type 4, FF7, les autres titres qui sont annoncés aussi, c'est Tekken 3, Wild Arms. Donc la question que je me pose, moi, c'est déjà quand est-ce qu'ils vont nous annoncer le reste, puisque je considère...
Il y en a combien en tout ?
Il y en a une vingtaine, 20 jeux annoncés. La question que je me pose déjà, c'est savoir quand est-ce qu'ils vont annoncer le reste. Sony n'ont pas été très, très, très bavards sur ce sujet. Ensuite, elle est annoncée à un prix de 99€.
Cher, ça.
Ouais, voilà.
Ça pique pour les moches, hein, putain.
Ça pique pas mal pour, bon, on va dire que c'est de... Voilà, c'est le prix de la nostalgie. Donc, et en plus aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que il y aura plusieurs versions différentes en fonction de la région où on habite, quoi. Donc, ça veut dire que nous, Européens, on n'aura pas forcément la même en termes de jeu que l'US. Ouais,
à la limite, ça peut se comprendre parce que
ça peut se comprendre effectivement.
Ouais,
ils ont les chiffres et ils vont ressortir ce qui a marché, quoi.
Voilà. Mais par exemple, moi, étant fan de RPG, j'ai par exemple beaucoup aimé Vagrant Story. Je suis pas sûr qu'en Europe il y aura Vagrant Story dedans, et peut-être que sur la version asiatique il y aura Vagrant Story. Enfin voilà, ce sont des choses. Mais
va en Asie, mec. Va en Asie.
Voilà. J'ai en Asie. Voilà, exactement. Et donc du coup, en fait, moi je me pose une question, à savoir que je pense que cette console est annoncée. La plupart du temps, les consoles classiques, bon, on l'a vu avec Nintendo. Quand ils ont sorti la NES classique, puis ensuite la Super NES. Et après, Sega qui s'y est mis avec la Mega Drive, en fait, ils ont vu qu'il y avait une manne financière, qu'il y avait quelque chose,
Bien sûr, oui.
Voilà, parce que les consommateurs visés étaient clairement ceux qui avaient 30 ou 40 ans, puisque c'était les consoles de notre jeunesse. Et en fin de compte, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que, justement, ces constructeurs comme Sony ou autres ne nous proposeraient pas tout simplement ces machines, mais avec un petit service online où on aurait la possibilité de pouvoir faire nos propres achats, au pixel parfait, comme tout à l'heure, comme tu disais, voilà. Où on pourrait tout simplement s'acheter la petite ROM qu'on voudrait pour pouvoir y jouer. Je trouve ça un peu dommage.
Voilà. Non, je pense que c'est des produits goodies. Ouais. Pour moi, c'est des produits fan goodies, en fait. Tu mets ça en tête de gondole dans les marchés de Noël, ça se vend, c'est super. Voilà. Tu offres ça à ta copine, pas à ta copine, mais tu offres ça à ton gamin. Pour dire ouais, c'est pour le gamin, mais tu sais que tu vas y jouer dessus, tu vois, enfin voilà quoi. Et c'est vraiment la cible, ça, c'est le cadeau facile, le cadeau de Noël, des trucs comme ça. J'ai un ami à Cultura qui m'a dit voilà, il y a eu un petit essor sur la NES là, la mini NES là qui était sortie. Maintenant les gens s'en foutent, plus personne la cherche, voilà,
tout le monde. Oui, complètement là.
Comme t'as dit, c'est une niche, mais je pense qu'elle va se revendre super bien à Noël.
Oui, ça c'est
sûr.
Tu vois
ce que je veux te
dire ? Ouais, c'est sûr.
Et c'est des gens qui veulent je pense se racheter ça pour eux, mais pour offrir aux gamins aussi.
Exactement.
Pour pas lui mettre une PS4 dans les mains, tu vois.
Exactement.
T'achètes ça, c'est sans pelle, t'avais un jeu dedans, et ton gamin, tu dis, vas-y, tais-toi, joue à ça, tu vois.
Puis il y a les types qui ont commencé à acheter les NES classiques et les Super NES classiques, enfin, mini, je veux dire, et ils vont continuer avec les PlayStation, les Mega Drive qui a été annoncé, ou Master System, je sais plus.
Ils en ont sur la PlayStation 4 mini.
Voilà. Ouais, c'est ça.
Il y avait un jeu,
mais bon,
c'est ça.
Encore la NES classique et la Super Nintendo, même si je cautionne pas, je peux comprendre, c'est du pixel, ça vit pas trop.
C'est du goodie, c'est vrai, ça fait objet de collection.
Mais franchement, la PS1, je suis désolé, putain, c'est moche. Les jeux, ils sont moches maintenant, je suis désolé.
On va dire que comme c'était les premiers jeux réellement modélisés en 3D, effectivement, ça a un petit peu mal vieilli, on va dire.
C'est sur Mega Drive, les premiers jeux 3D.
Oui.
Avec Virtua Racer, s'il vous plaît.
Oui, c'est vrai, parce qu'en plus, il y avait le Mega CD, en plus, sur Mega Drive.
Sur 32X.
Oui.
Sur
Et sur Mega Drive aussi.
Et sur Mega Drive aussi.
Sur Mega CD, Star Fox sur, bon, sur Super NES.
Allez.
Bien sûr, bien sûr.
C'est bon ?
Ouais, c'est bon, nickel.
On va passer donc à Nico qui va nous parler de la sortie de Raid.
Alors oui, alors malheureusement une mauvaise nouvelle pour tous les fans de moto, car pour le rappeler, donc Raid est un jeu uniquement avec des motos, et malheureusement ce jeu a été repoussé au 30 novembre, donc il va falloir attendre encore un peu de temps. Moi étant fan de moto, voilà, je suis un peu dégoûté, mais bon, on va apprendre à être patient. Ce que par contre je peux vous dire déjà, c'est qu'ils ont annoncé donc la liste des motos complète, qui a été donc répertoriée sur leur site. Donc on sait déjà qu'il y aura 230 motos et qu'elles seront réparties en 7 catégories. Donc c'est vraiment pas mal, hein. Moi j'ai commencé le jeu il y a quelques temps, j'ai découvert le 2.
Sur quel support ?
Xbox. Et voilà, c'est un jeu que j'attends vraiment parce qu'en ayant essayé le numéro 2, il était vraiment plutôt sympathique. Surtout qu'il y a deux aspects du jeu, un qui se tend plus vers le côté arcade et l'autre plus sur le côté simulation. C'est-à-dire qu'on peut varier entre les deux. Donc c'est vraiment c'est sympa, un très bon jeu, oui, oui.
Et la date de sortie, c'est quoi, tu dis ?
Alors du coup, le 30 novembre.
Ah ça va, ça joue.
C'est dans pas trop longtemps.
Ouais, c'est cool.
Surtout que j'ai déjà vu quand même les trailers de Raid 3 qui a l'air vraiment très très prometteur au niveau graphisme. Il a l'air super beau. Donc maintenant, j'attends de voir, c'est surtout au niveau du gameplay, cool. Voir ce que ça va donner.
Ça le fait.
Allez, Nono va nous parler de Forza Horizon 4.
Hier, yeah. Alors Forza Horizon 4, ceux qui connaissent pas les Forza Horizon, c'est édité par Playground, qui sont avec la firme Microsoft depuis quelques années maintenant, mais c'est une nouvelle boîte en fait. Pour vous faire une petite histoire rapidement de Playground, c'est que c'est une bande d'amis qui ont voulu créer la société, et ils ont vu que la manne financière qu'il fallait pour créer un jeu était compliquée. Et ils ont lancé des appels en fait à Nintendo, Sony et Microsoft, et c'est Microsoft qui a répondu. Voilà la petite histoire de Playground. Et en fait, Microsoft leur a donné carte blanche parce que finalement, l'équipe de Turn 10, ceux qui font les Forza Motorsport, cherchait un nouveau style à Forza, un style plutôt arcade, et c'est exactement ce que eux faisaient déjà. Donc l'accord s'est tout de suite créé et ils ont sorti Forza Horizon, le 1, le 2, le 3. Alors j'ai joué au 2, j'ai compris le concept du jeu arcade, mais je suis pas allé plus loin que ça, parce que je m'emmerdais un petit peu. Moi j'aimais bien les jeux de simu, j'adore les jeux arcade, mais il faut que le jeu arcade m'apporte ce petit quelque chose de sympa que j'avais pu retrouver.
Moi c'est le côté monde ouvert qui m'avait un peu saoulé.
Ouais pareil, parce que voilà, tu roulais un peu pour rien, et voilà, c'était rouler pour rouler quoi. Moi le dernier jeu en date qui m'avait vraiment fait kiffer en arcade, c'était PGR, donc la série PGR avec le 4 qui était juste magnifique et voilà, qui était parfait. Et là Playground, ils nous sortent Forza Horizon 4, et ben pour moi c'est une suite totale de PGR 4. C'est-à-dire qu'on a les saisons, on a la météo, on a les styles de conduite, on a des événements. Ils ont sorti une démo qu'on a pu tester. La démo est franchement magnifique. Ils ont fait un effort sur le gameplay, sur la qualité graphique.
Elle est encore disponible, la
démo ? Elle est encore disponible. Le jeu est magnifique, ça va super vite. Il y a des caisses à gogo. Bon, après, les bémols, je vous en parle rapidement, mais parce que j'ai un petit avis dessus. C'est que, voilà, ils ont voulu faire... Il y a toujours cet esprit... où t'as la bonne meuf qui arrive, hey, bonjour, super,
c'est insupportable, ça.
Faire un truc, c'est génial, cours, voilà. Voilà. Bon, c'est un jeu grand public, je vous en parlerai tout de suite après, là c'était la petite news. Donc le jeu, en news, ce qu'on savait pas, c'est que, et j'étais vraiment pas au courant, c'est en cherchant un petit peu, il y a 75 joueurs en même temps sur les serveurs. 75 joueurs sur les serveurs. C'est-à-dire qu'en gros, à un moment, ils font des rassemblements. Dans le jeu.
Ouais, c'était 75 sur le monde ouvert en fait, sur la map.
Sur la map.
Ok, ouais.
Donc en gros, dans les rassemblements, tu peux te retrouver à 75 pour faire une course. Ou pour faire un event, ou le premier qui arrive là-bas, tu vois. Donc juste ça, c'est énorme. Petite déception, le jeu était prévu en 4K 60 FPS. Et là, il est tombé à 4K 30 FPS.
Ça fait mal au voilà. Mal au derche.
Tu peux activer dans le jeu l'option qualité qui est 4K 30 FPS. Et l'option fluidité, qui est l'option qui te permet d'être en 1080p 60p. Donc 60 FPS. Parce que j'ai testé les deux, et franchement, le 1080p 60 FPS passe
quand même. Tu peux quand même choisir.
Ouais.
Bon, ça va, ok.
Voilà,
ouais,
ça passe super bien. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure.
Allez, on va passer à. Ben moi, je voulais vous parler de la fermeture de Telltale Games. Donc ça s'est passé il y a à peu près une semaine, hein, on va dire. Donc voilà, du jour au lendemain, un petit tweet et voilà, la direction de Telltale a déclaré que ça fermait le lendemain.
Vous voyez, les employés ont eu une demi-heure pour faire leurs affaires, voilà, et se barrer, sans être payés. Apparemment, ils travaillaient depuis plusieurs mois chez Telltale, quasiment gratos, puisqu'il y avait un retard de paiement pour les salaires. Ce qui veut dire que c'est une boîte de gros bâtards.
Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a même des mecs qui ont été embauchés genre deux jours avant la fermeture.
Ah mais complètement. Hein. Non, mais Telltale, c'était...
Donc les mecs, ils ont tout plaqué.
Et du genre. En même temps, la plupart des joueurs avaient tout plaqué aussi pour les jeux Telltale le plus longtemps.
Après, non, parce que voilà, ils ont le même moteur depuis combien d'années maintenant?
Alors,
depuis 10 ans.
Oui. Telltale. Alors, ce qui est extraordinaire chez Telltale, c'est que c'était la seule boîte du jeu vidéo encore actuelle qui n'avait pas de moteur physique, hein. Donc quand il y a un objet qui tombe par terre, c'était programmé à la main, ou au pied.
Mais
ou à la truelle,
alors du coup, ils ont annoncé. Alors au départ, a été annoncé que la dernière saison de Walking Dead s'arrêtait du coup à l'épisode 2.
Ouais.
Mais
il reste 25 salariés à Paris, voilà, pour fignoler ça.
Dans la semaine, apparemment, il a été dit qu'ils essaieraient de finir le jeu. Mais bon, ça, je pense que
ça sent la merde, quand même.
Il y a aussi une autre rumeur. Aussi une autre rumeur, c'est qu'ils venaient de signer avec Netflix pour faire une adaptation de Stranger Things. Ouais. Et que Netflix, ils aimeraient bien quand même la voir.
Ah, mais moi, je peux te dire direct qui c'est qui va le faire. C'est
Dontnod.
C'est plus une référence quand tu vois toutes les merdes qui sortent sur Netflix, les adaptations.
Des contrats qui sont signés, quoi. Voilà.
Moi, je pense que Dontnod, il pourrait récupérer le truc.
Ah ben, Dontnod, voilà. ils ont repris la recette de Telltale et puis ils l'ont
sublimé, quoi.
Voilà. Donc, a priori, ouais. C'est compliqué.
Bonne route.
Non, mais c'est un drame pour les programmeurs. Mais après Telltale, ils ont inondé les shops virtuels de jeux.
Ils ont acheté des licences,
avec des jeux épisodiques qui se clonaient tous les uns les autres.
Voilà. Ils étaient combien t'as dit qu'ils étaient?
250.
Et ils avaient combien de licences? Au moins 10 licences. Game of Thrones, Wolf Among Us, Walking Dead, Guardians of the Galaxy.
Ils les ont payés très cher.
Retour à le futur, mais c'était fini. Batman, c'est bon, ça.
Voilà. Bref. Pour des jeux tout buggés.
Bref, bon courage les gars. Voilà. On va parler avec Nono de Grip. Pas la maladie, hein, le jeu.
Oui, Grip est un jeu de type arcade, toujours dans les jeux de course. C'était un jeu qui était sorti sur PC. Et en fait, en gros, c'est un mélange de Wipeout. De F-Zero. Voilà.
Wipeout.
On est en France, bordel, merde. F-Zero, et en gros, mais sauf que c'est des véhicules qui sont avec en fait, ils ont 4 roues motrices et tu peux rouler dans les deux sens du véhicule. Tu vois ce que je veux te dire? Donc en fait, tu peux prendre les murs, t'amuser dessus, machin. C'est hyper rapide, hyper fun, c'est fluide de ouf, c'est en 60 FPS. T'as des atouts un peu comme Mario Kart en fait. Et voilà, c'est juste une petite news dessus. Allez jeter un œil. Parce qu'on manque, moi je trouve qu'on manque énormément de jeux simples, arcade, rapide, tu joues, tu t'éclates. Et ça, c'est un jeu qui est multi, et voilà, il y a de belles maps, il y a de bonnes sensations de vitesse, ouais.
D'autant plus que souvent, la simplicité dans ce genre de jeu, même à carte, ça peut être quelque chose de technique aussi, quoi. On l'a pu voir il y a longtemps avec la série F-Zero sur Super Nintendo et sur GameCube aussi.
Bien sûr.
Ils ont sorti cette série-là, c'était très simple en termes de gameplay, t'avais 2-3 touches, quoi. Mais une fois que ça s'accélérait, il fallait faire attention, quoi. Parce que sinon, tu pouvais te cracher, c'était fini. Quoi, tout simplement.
Allez, on va passer à Nico qui va nous parler de Jump Force.
Alors oui, je vais vous parler de ce jeu. Donc on en a parlé il y a quelques temps lors de la TGS, une fois de plus, où de nouveaux gameplays sont sortis avec pas mal de nouveaux personnages qui ont l'air du coup plutôt intéressants. Donc déjà ils ont rajouté un personnage qui appartient du coup à la franchise Yu-Gi-Oh, le personnage étant Yugi Moto justement. Alors, on n'a pas encore de gameplay, malheureusement, il y a juste des images, mais c'est exactement ça. En fait, le personnage utilisera des cartes, et en fait, les cartes, du coup, apparaîtront sur le terrain et se battront à la place de Yu-Gi-Oh.
Mais t'as déjà testé, t'as déjà joué à Jump Force ou... Parce que moi, j'ai vu des vidéos de gameplay, j'ai trouvé ça terrible, la vidéo de présentation, mais quand j'ai vu le gameplay, j'étais un peu sceptique. Hein. Franchement, ça a l'air pourri, quoi.
Mais je suis assez partagé, en fait. J'attends justement de pouvoir le tester. Alors, la bêta, je sais qu'elle sort, si je me trompe pas, en octobre. Les deux premières semaines d'octobre, donc je vais la récupérer. Je vais essayer de m'arranger, je ne vais pas commander le jeu parce que la bêta va être fermée.
Ah, d'accord.
Donc je vais quand même essayer de la récupérer parce que ouais, c'est quand même un jeu que j'attends avec beaucoup d'impatience parce que le fait de mélanger plusieurs personnages d'univers comme ça, c'est vraiment excellent. Alors là par contre où je suis un peu perplexe, c'est surtout au niveau des graphismes.
Oui, ouais, c'est ce que j'ai te dire.
Je trouve que c'est à la fois beau,
ouais.
Parce que vraiment le moteur graphique en jette.
Ouais.
Mais malheureusement, sur certains personnages, ça ne le fait pas.
Ouais,
notamment sur les personnages de DBZ.
Oui, oui, complètement.
Sur Goku, enfin Goku ouais. est juste horrible. Oui. Freezer, bon, j'en parle même pas. Et Vegeta non plus. Donc c'est assez décevant à ce niveau-là.
Mais alors, ce jeu, moi, Jump Force, il me fait penser à un jeu qui est sorti sur PS4 là, il y a 2-3 ans. Là. C'était. Putain, comment ça s'appelait ce jeu-là ?
Je vois de quoi tu parles.
Oui, oui, non, mais voilà. Alors, le gameplay. C'est merdique, mais alors, mais c'est merdique. Assez rigide, c'est on n'y comprend rien. Enfin,
non mais Guillaume, c'est complètement illisible. All Star, voilà, Jump All Star,
Jump All Star, ouais, voilà.
Plus, je sais plus trop quoi.
Ouais, voilà,
bon, je l'ai. À la maison.
Aussi, ouais,
eh oui, je l'ai à la maison.
Moi aussi, je l'avais.
On a des fans à la maison. En fait, je suis encore en train d'essayer de comprendre les règles du jeu.
Ah oui,
Et c'est le problème, hein, je veux dire, horrible. C'est que c'est un jeu. Alors c'est vraiment du fan games, mais le seul intérêt de cette version-là, je m'en rappelle plus le nom exact, c'est quand même les graphismes. Pour le coup, ils étaient en cel shading et ils respectaient ouais. davantage la logique du manga. Ouais.
G-Star Victory,
voilà. Plus.
Versus crois, plus.
Voilà, versus plus, voilà. Honnêtement, ça allait encore. Enfin, graphiquement, ça pouvait se gérer.
C'était quand même un peu dégueulasse.
Oui, voilà, mais ça respectait l'esprit manga.
Ouais.
Là, le problème, c'est que Jump Force, l'idée, c'est de faire des personnages ultra réalistes.
Ouais.
Mais je suis désolé, Son Goku, il est pas réaliste.
Non.
Voilà.
Ouais.
C'est
mais
tout.
Ouais,
c'est,
ouais, ouais.
Je crois que c'est ce qu'on peut dire, c'est. Il est intéressant ce jeu, c'est Microsoft qui l'a annoncé en premier sur
ouais.
Xbox à l'E3, à la conférence E3. Les images, on va dire, elles étaient magnifiques.
Ah, mais Microsoft,
de...
ils sont en chien, ils prennent tout ce qui passe en ce moment.
Non, mais c'est pas ça, mais.
Allez, leur conf.
C'est japonais, c'est bon.
Ils ont montré que des jeux multiplateformes, tu sais, ils sont
non,
en
mais,
chien en ce moment.
Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont montré une image, ils ont montré une vidéo qui n'était pas une vidéo de gameplay. Et bon, le problème de ces vidéos, on va dire, c'est l'introduction.
C'est beau,
ça donne envie, mais après, quand tu vois le jeu tourner, c'est du spierfeuille, ciseaux, papier et pas plus en termes de jeu. Voilà, donc c'est pas intéressant.
Donc on va passer à Nono qui va nous parler de Call of Duty Blackout.
Yes, Call of Duty Blackout qui est le mode Battle Royale de Call of. Donc c'est Call of Duty Black Ops 4.
Bâton.
Voilà, 4 bâtons. Donc ils ont leur mode Battle Royale et ils n'ont pas perdu de temps. Ils ont fait une bêta qui était une bêta fermée. Il fallait acheter préco, il fallait un peu voilà connaître des gens et tout, tu sais, aller voir ton dealer pour qu'il te donne un code. Enfin voilà, tu sais, c'est un truc, voilà, tu veux la bêta, connard. Hein. Et moi, étant sur Xbox, j'avais pas moyen d'accéder à la bêta et c'est un ami qui était sur Play qui l'a eu. Et je suis allé le voir, on a passé une après-midi dessus et franchement, j'ai été mais agréablement surpris. En gros, c'est PUBG, mais en vrai jeu.
Voilà. En plus beau.
En vrai jeu. Ouais.
C'est PUBG en plus beau. Hein.
Parce que tu peux pas enlever à Call of.
Sans bug.
Tu peux pas enlever à Call of leur gameplay. Qu'on aime ou pas Call of, ils ont un gameplay mais qui est irréprochable. C'est tu vis, ça marche. Voilà. Ça bouge bien, c'est nerveux. Donc ils ont gardé cet état d'esprit là sur le Battle Royale. Tu peux glisser, te mettre à genoux. Première mondiale, tu peux te mettre allongé sur un jeu Call of Duty. Donc ça c'est rare et c'est appréciable. Tu peux nager, t'as des véhicules, des 4x4, des hélicoptères, des machins, tout ça et tout. On commence à jouer, on s'éclate et tout. On voit que le gameplay marche bien. On essaye de faire un peu top 1 et tout, tu vois. On s'éclate, franchement, on passe un bon moment. En tout cas, on n'est pas emmerdé par le gameplay comme ça. On peut l'être sur un PUBG par exemple. On trouve des armes assez rapidement. Bon, il y a des petits défauts, mais apparemment ils vont mettre ça à jour. PUBG console, c'est juste une horreur, quoi. Ouais. Tu vises un gars, tu vises sa tête, tu tires sur son pied, quoi. voilà. Donc, on s'éclate et à un moment, tu sais, on voit des zombies. On fait qu'est-ce que c'est ce délire et tout, tu vois. On s'est dit ouais, c'est quoi des zombies comme ça dans la map. Et en fait non, c'est dans le jeu, tu as des zombies qui sont là pour protéger des stuff de qualité. Donc des grosses armes, des machins et tout. Mais c'est genre des zombies, mais nerveux de ouf. Tu vois, c'est pas genre tu lui mets une balle, c'est fini. C'est de vrais duels que t'as à faire avec eux, tu vois. Mais quand tu fais des duels avec eux, tu te fais repérer. Donc tu choisis ton camp. Genre, ou soit tu l'as fait discret, ou soit, bon, t'as envie d'avoir du bon stuff, tu vas aller tâter un peu du zombie, mais les autres, ils vont te repérer. Et on a tapé un délire toute une après-midi. Moi, en tout cas, j'en suis ressorti avec, putain, Battle Royale, un petit délire avec des zombies. Alors, dans la bêta, c'était 80 joueurs en même temps. Et là, ils ont fait une annonce de mise à jour où ils vont essayer de dépasser les 100. Donc, tout de suite, tu vois de quelle catégorie on parle en termes de jeu Battle Royale. C'est légèrement plus petit qu'un PUBG, par exemple. Mais honnêtement, c'est super varié. T'as de la nature, du désert, de l'eau, de machin. Non, c'est bien fait. Et petite anecdote sympa. Ils ont repris certaines maps qu'on connaît tous de Call of Duty, comme Knockdown, et ils les ont mis dans la map. Et on est allé voir Knockdown et tout, on a fait « Oh, terrible !» et tout. Enfin bref, c'est un jeu, c'est un petit mode coup de cœur, et je vous dis perso, le mode zombie de Call of et le mode machin, ouais, ok, bon, ça sera un peu pareil, quoi, on va dire, tu sais, il sera sûrement bien, il y en a qui n'ont pas aimé. Mais en tout cas, ce petit mode-là, terrible.
Allez, on va passer à Nico pour la dernière news et ça va être sur la série Netflix The Witcher.
Alors oui, alors une news qui est tombée donc il y a à peu près un peu moins d'un mois. Alors c'était exactement donc le 4 septembre, c'est à propos du casting. Donc on sait enfin qui incarnera le rôle de Geralt de Rive. Et comment dire, je reste très dubitatif du choix que la créatrice Lorraine Schmidt-Heyrich a fait. Car c'est entre autres Henry Cavill. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'acteur qui a fait les derniers Superman. Alors là où je suis très pessimiste, c'est que je trouve que déjà physiquement, il n'a pas l'aspect pour faire ce rôle. Alors qu'il y avait d'autres acteurs qui étaient vraiment parfaits pour incarner Geralt de Rive, notamment l'acteur, alors je ne me rappelle plus de son nom, mais celui qui jouait dans la série Hannibal. C'est
Guillaume. Max Mikkelsen.
Oui, voilà, celui-là, exactement. Ouais. Alors, cet acteur, pour moi, c'était vraiment le meilleur choix qu'elle
aurait. Connaissant un peu le gars, et je pense qu'il s'en bat les couilles. The Witcher.
Il y a des chances.
Non, mais c'est vrai.
C'est pas la même catégorie, à mon avis, voilà. Donc oui, certainement.
C'est exactement ça. Et puis, je pense qu'il voulait aussi plancher sur un mec. Quitte à faire une série Netflix sur The Witcher, autant faire plusieurs saisons. Max Mikkelsen, il a 50 balais. Passé, Henry Cavill, il doit avoir 35 ans.
Il est tout jeune encore.
Voilà.
En espérant qu'il a pas une clause sur sa moustache encore une fois.
c'est vrai que ça peut faire foirer les films. Ça.
C'est vrai. Ah, ça oui.
C'est vrai que ouais. La Justice League s'en souvient encore. C'est bon pour le.
Ça sera tout
le
pour Witcher. Cette news.
Allez, tout de suite, on va passer aux avis. Allez, on va commencer les avis avec Landry qui va nous parler de Dead Cells.
Oui, alors Dead Cells, sorti cet été au tout début du mois d'août, après une période d'accès anticipé sur PC où le jeu a bien évolué. Alors c'est un éditeur français du côté de Bordeaux, Motion Twins, qui édite ce jeu, qui est un roguelike, c'est-à-dire un jeu où on perd beaucoup, beaucoup, souvent, longtemps. Bref, un jeu très intéressant, tout en pixel art, très très beau, sorti sous tous les supports, le même jour, PS4, Xbox One, Switch, Macintosh, enfin la totale.
Apple 2.
Ouais, presque Apple 2, donc quand même pas. Vraiment un jeu, si vous ne l'avez pas fait, c'est vraiment la petite pépite indé de cet été. Donc je vous le recommande chaudement. La version Switch a eu quelques petits problèmes de programmation.
C'est bizarre,
ça. Non, c'est pas bizarre, ça se comprend tout à fait. Pas du tout. Non, mais apparemment, d'après les éditeurs qui ont joué la transparence, le jeu a été développé. Le choix de le développer sur Switch est arrivé beaucoup plus tard que sur tous les autres supports. Et comme ils ont voulu le sortir le 4 août, il me semble que c'est le 4 août, voilà. Ils l'ont sorti, disons, comme ça. Il ralentit aussi énormément sur Xbox One X, qui est la console la plus puissante du marché. Rappelez-vous ça. Et donc. Le jeu sur Switch a été patché et donc maintenant il tourne aussi fluide que sur une Xbox One X qui est, je vous le rappelle, la console aux 6,5 teraflops.
Ok, merci Landry. On va passer à Nono qui va nous parler de la bêta de Battlefield 5.
Yes, la bêta de Battlefield dispo sur PS4, Xbox et PC. C'était un jeu en bêta ouverte.
Tout à fait.
Voilà. Donc ça n'a pas duré longtemps. Non, je crois qu'il y avait eu un système de pass en avant-première sur PlayStation.
Ils avaient 2-3 joueurs.
Ouais, voilà, aussi. Sur PlayStation, il y avait un truc un peu plus avant. Et les clochards que nous sommes, on a testé le jeu 2 jours. C'était deux trois jours, tu vois. Mais bon, on a pu tester le jeu. Donc c'est pendant c'était, je l'ai dit tout à l'heure, c'était un jeu qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la map, c'était la map qui était à Rotterdam. Rotterdam.
Il y en avait une autre un peu dans la neige aussi, non?
Il y en avait une autre aussi dans la neige, ouais, voilà. Ouais. Mais là, voilà. Donc, en gros, le jeu commence, c'est un peu le même système que BF1. Tu dois faire des captures de zone ou machin, tout ça. Bon, bref, on connaît le délire. Dès les premières heures de jeu, bon, ben, moi, ça m'a pas trop fait tilter et après, je me suis dit, tiens, franchement, ça va. Le gameplay, ça va. Tu vois, tu vis, ça marche. Il y a de bonnes sensations de tir. Bon, on connaît tous les Battlefield, voilà.
En termes, tu vois un truc qui bouge,
voilà,
tu tires.
En termes d'immersion, on est dans la guerre, ça marche bien, tout ça et tout. Les maps sont sympas. Enfin, voilà, quoi. Ça, c'est le premier aspect. Moi, après, ce qui m'a vraiment un peu saoulé, c'est que ils auraient pu l'appeler Battlefield 1 plus. Parce que pour moi, c'est un DLC. C'est vraiment que ça, quoi. C'est le même auteur du jeu. Graphiquement, ils ont fait le minimum syndical, enfin, pour que ça passe, soit sympa. Voilà, et ça, bon, ça reste qu'une bêta, hein, je suis d'accord, mais c'est comme je disais tout à l'heure à Karim, c'est un jeu qui est franchement trop lisse pour moi, quoi. Les soldats, ils sont tout propres. Tu arrives dans une ville où c'est la guerre. T'as des jolis bateaux. T'as les murs qui sont très beaux, et c'est cette ambiance-là, moi, qui m'a un peu cassé les couilles, tu vois. Et voilà, la guerre, c'est moche, comme il dit Karim, ça doit transpirer, ça doit être sale, ça doit avoir de la poussière tout le temps, c'est vraiment...
La guerre, c'est moche, et puis il y a
Karim.
Comme je te disais tout à l'heure, il y a de la beauté dans la mocheté aussi.
Ben oui, mais c'est ça.
Quand tout à l'heure, je disais, t'as vu, quand on parlait de Resident Evil, il y a des scènes où c'est moche, clairement. C'est pas beau, quoi. Mais c'est tellement pas beau que c'est bien fait, quoi.
C'est ça.
Donc, du coup, ben, c'est vrai que si tu dis que dans ce jeu-là, ben, les textures sont beaucoup trop lisses, ça retranscrit pas trop la réalité. Ben après, c'est
mais
la
en
bêta,
plus, c'est un jeu d'immersion.
Oui.
C'est un jeu où tu dois vivre la Seconde Guerre mondiale en faisant des batailles, machin et tout. Il y a des choses qu'ils ont bien réussi à faire, genre le sound design, il est juste parfait dans le jeu. T'as une ambiance de guerre partout, c'est terrible. Mais la map de la neige qu'on a pu tester aussi, elle est sympa. Il y a une bonne ambiance aussi, quoi. Mais c'est juste que si vous avez fait Battlefield 4, si vous avez fait Battlefield 1 et que vous faites celui-ci, franchement. Mais vous êtes en terre connue, mais de ouf.
Voilà. Bah, voilà, quoi. Moi, si je peux donner mon avis, ouais, j'ai testé un peu aussi la bêta et moi, j'ai pas les reproches de Nono parce que ça, après, c'est le reproche qu'on peut faire à tous les FPS, genre Call of Duty.
C'est ça.
Là, c'est
ça.
La réédite de à chaque saison, c'est pareil. Bon, peut-être pas cette année, mais moi, le reproche, en fait, ce serait pas ça. C'est la lourdeur du gameplay, à vouloir faire trop des belles animations. On sait plus s'ils veulent améliorer le gameplay ou améliorer le mode spectateur, quoi. Que le soldat, il ait vraiment les mouvements parfaits. Ce qui fait qu'en jeu, on va tuer un mec, on va se déplacer, le temps qu'il se tourne, l'arme va se baisser un poil, on va pas pouvoir tirer de suite. Et ça gâche un peu le gameplay, toutes ces petites animations contextuelles et tout. Moi, c'est ça qui m'a saoulé, quoi.
Ouais, mais concrètement, quand t'as pu tester la bêta, est-ce que tu as vu, enfin,
une évolution?
Après, je vais utiliser des mots basiques, mais c'est un nouveau jeu. Est-ce que tu as vu quelque chose de nouveau?
Non, c'est juste le fait, les sensations avec les armes, vu qu'elles sont automatiques et que c'est dans Battlefield 1, c'était du semi du coup par coup.
Bien sûr.
Il y a ce petit côté nerveux, mais c'est vrai que l'habillage, c'est du Battlefield.
Ben c'est ça. Ouais. Mais en plus, moi, il y a un truc qui m'avait choqué, c'est que dans les premiers Battlefield où ils avaient inclus les tanks, quand les tanks ils arrivaient, il y avait du bruit, il y avait de la poussière.
Oui,
tu
oui.
Waouh, putain, le tank et tout. Là,
non, ça, on
a
testé ensemble, c'est vrai que tu me l'as fait remarquer. Le côté lisse, les rues toutes carrées, tout propre, droit. Tu sens que c'est programmé limite par ordinateur.
C'est
qu'il y a
ça,
pas un travail.
Ouais,
je vois ce que tu veux dire.
Et voilà, c'est tout.
Okay. Allez, messieurs, on va repasser le micro à Landry qui va nous parler de Dragon Quest 11.
Alors, Dragon Quest 11 qui sort un an après la version japonaise. avec ce qu'on peut considérer comme une version internationale, avec de nombreux avantages et atouts qui n'étaient pas présents sur la version originale, à savoir déjà un doublage avec des voix américaines. Alors ça, c'est pas top, mais la version originale japonaise ne possédait pas de voix, puisque Dragon Quest au Japon n'est pas doublé.
Oui. C'est vrai.
Une autre fonction qui faisait défaut à la version japonaise, c'est tout simplement on peut courir dans les villes. Ça a l'air de rien, mais ça permet de traverser certains environnements un peu plus rapidement parce que c'était, paraît-il, très 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 long.
Ah ben oui.
Donc là il y a un vrai dynamisme. En fait, ce qui se passe, c'est que finalement les Japonais ont entendu les critiques de la version qui a été faite japonaise et ils ont ajouté pour nous les étrangers des
et la difficulté donc. La difficulté elle a été augmentée, il y a un mode.
La difficulté a été augmentée, on galère beaucoup plus, c'est-à-dire il y a des affrontements beaucoup plus stratégiques apparemment que la version japonaise, ce qui fait que d'après ce qui était ressorti des tests à l'époque, il y a un an, il fallait environ 30 heures pour finir ce Dragon Quest, qui était assez peu pour un jeu de rôle. Là, honnêtement, j'en suis à 25 heures et j'ai dû en faire un tiers du jeu. Mais vraiment, bon voilà. Mais après, j'ai pris mon temps aussi, c'est-à-dire que j'affronte la moindre bestiole qui passe, je décide de l'affronter pour faire du level et de l'XP. Donc voilà, c'est vraiment le jeu au système classique, au graphisme absolument extraordinaire. Alors que c'est de l'Unreal Engine, pour le coup, c'est pas du tout des assets random. Les graphismes et tous les concept art de Toriyama ont été respectés à la lettre. Et honnêtement, si vous avez par exemple aimé Dragon Quest 8 sur PlayStation 2, ce qui remonte maintenant, celui-là est du même tonneau.
Il était dur Dragon Quest 8. Hein.
Oui, voilà.
Putain, bon, là, dès le début là.
Là, on est sur quelque chose d'un peu plus accessible. Mais en même temps, on a la patte du maître pour les graphismes. On a la patte des programmeurs qui se sont pas finalement perdus comme pour Final Fantasy XV. Hein. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de vraiment classique et on cherche pas à faire de l'ultra réalisme ou autre chose. Et du coup, finalement, en 2018, ça fait du bien. Quoi. Voilà,
et du coup, classique. Entre Ni no Kuni 2 et Dragon Quest 11.
Je ne choisis pas, je prends les deux.
Bon, ok.
Voilà, mais
c'est bon. Je ne choisis pas, je prends les deux.
Mais clairement, on a eu une excellente année, je pense, en termes de JRPG. Ouais. Donc, il ne faut pas bouder son plaisir, parce que ce n'est pas toutes les années comme ça. Hein, voilà. C'est bien, c'est vrai.
Allez, on va passer à Karim qui va nous parler de PES 2019 et FIFA 19.
Ouais, alors les mecs, en ce qui concerne mon avis, en fait, c'est si j'ai voulu parler aussi de FIFA 19, c'est parce que je voulais faire une ode à PES 2019 pour cette année, puisque vous avez compris, je suis hypé par rapport à PES 2019, qui m'a clairement convaincu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait déjà deux saisons où j'ai tendance à préférer le jeu de chez Konami. Et là, pour moi, cette année, je pense qu'ils ont définitivement enfoncé le clou. Par contre, je pense quand même que malgré tout, bien sûr, ils n'en vendront toujours pas autant que leurs concurrents chez FIFA. Il y aura plusieurs raisons par rapport à ça, mais là n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais après, si je devais rentrer dans le vif du sujet en ce qui concerne PES, déjà, graphiquement, il est magnifique. Clairement, je trouve que le moteur Fox Engine, il fait des prouesses et il arrive à maturité. Les textures sont magnifiques, les graphismes sont magnifiques, les animations sont superbes, les visages, les expressions des joueurs sont criantes de réalisme. Ensuite, en termes de gameplay, franchement, c'est très jouissif. J'ai pu faire des sacrées parties, des sacrées sessions de jeu où j'ai clairement l'impression de pouvoir construire et apporter quelque chose.
Non mais gros, laisse tomber, FIFA c'est mort.
Ouais. non, vraiment ouais. c'est puis le rythme est posé, c'est crédible, la physique de la balle est crédible.
Comme je t'avais dit, déjà PES 2018, je t'avais dit, franchement, j'ai fait sérieux, bien, tu vois, j'étais là, ouf.
Ah oui,
ouf.
complètement. Alors c'est vrai que la plupart des gens vont râler parce qu'ils vont dire déjà les licences. Donc c'est vrai, effectivement, il y a un problème de licence, comme ça a toujours été chez Konami. Maintenant, pour tous les gens...
Je t'avoue, non mais là-dessus, crois-moi qu'il y a de gros fans de licences.
Exactement, j'allais venir. Et en fait, la plupart des joueurs sur PlayStation ou PC ont la possibilité d'avoir un patch, donc fourni par la communauté, ou tu télécharges sur clé USB, tu te le fous dans ta console et c'est réglé. Il n'y a plus de problème de licence. Mais bon, ça ne fait pas grand public. Mais personnellement, moi en tant que joueur, et je sais que je ne représente pas l'immensité des joueurs, ce qui m'intéresse d'abord, c'est le contenu, le gameplay, la licence. C'est secondaire finalement. Parce que ce que je retiens, c'est ce que je vais apporter, les sensations que ça va me donner. Et putain, quoi, quand je joue, quoi, c'est vraiment bien, quoi. Je dirais, tu joues, tu.
Oui, parce que finalement, dans PES, tu as quand même les équipes qui sont à jour, les perfs qui sont à jour, les specs qui sont à jour, quoi.
Ah ouais, non,
c'est juste les noms qui sont pas officiels, quoi.
Bah, c'est, en fait, c'est les équipes ou, ouais, les noms des maillots. Bon, Juventus, PM Black White, donc voilà, enfin bref. T'as pas tous les noms des équipes anglaises, bon, bref. Mais c'est pas le plus dérangeant parce qu'encore une fois.
Oui, mais les joueurs sont là.
Les joueurs sont d'actualité.
Voilà.
Voilà. Mais après, c'est pas dérangeant parce qu'encore une fois, tu prends ton patch, c'est réglé, quoi.
Ouais.
Et puis même si tu le fais pas, tu t'en fous, quoi. Tu vas jouer, quoi. Tu vas jouer. Et moi, j'ai conscience que beaucoup de gens, sur FIFA, bon, ils aiment le mode fut. Voilà, ils adorent ça. Ça rapporte de l'argent à FIFA. Et puis, j'ai rien contre ça. Mais souvent, je te disais aussi, Nordine, moi, un jeu de sport, c'est tu es assis sur un canapé, tu joues avec ton collègue et tu joues, quoi.
Ouais, oui, c'est la
voilà. Et malheureusement, FIFA, ces dernières années, ils ont eu tendance à l'oublier. Parce que le 2019, pour moi, c'est le 2018.
Non, c'est le 2016.
C'est 2016. Il n'y a pas d'évolution. Donc, ils ont repris la licence Ligue des Champions que PES avait jusqu'à l'année dernière. Donc, c'est bien. Il y a des sacrés. Alors, ça, l'ambiance est géniale, c'est au top, parce que j'ai joué longuement aussi. L'ambiance est magnifique. Alors là, c'est super. Le machin et tout, le cadrage, etc. Mais manette en main, c'est un désastre. Ça va beaucoup trop vite. Il n'y a pas de construction. Tu peux prendre un joueur, tu peux dribbler 4, 5, 6 joueurs, tu peux marquer.
Tu trouveras toujours des gens qui vont te dire, mais non, c'est meilleur FIFA.
Voilà, oui, mais
c'est ça le délire. Mais moi, je te rejoins vraiment de ouf dans le sens où quand tu testes un jeu de foot. Il faut tout de suite que ça te plaise, qu'il y ait une cohérence.
Exactement.
De jeu, que quand tu marques un but, tu vois, t'es bien. Et FIFA, comme tu l'as dit, ils se sont reposés sur leur laurier.
Exactement.
Et ils te proposent que le même jeu, en fait.
Voilà.
Alors que PES était en Challenger depuis plusieurs années.
Bien sûr.
Mais malheureusement, dans tout ça, même si PES 2019 est un cru, mais vraiment excellent.
Oui.
Eh ben, il se vendra moins que FIFA.
Il se vendra moins parce qu'en plus, les premiers chiffres tombés, malheureusement, se sont vendus à 47% de moins
les PES
en day one
en
que l'année dernière. C'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il s'est moins vendu que l'Opus l'année dernière, alors que l'Opus cette année est franchement terrible. Enfin, je veux dire, il y a pas photo, quoi. Pour avoir testé les jeux, c'est, enfin.
Il est beau, hein.
Ah, mais sur la Xbox, il tourne en 4K, 1000 images par seconde. Je veux dire, voilà, je t'en prends plein la gueule, quoi. Il est somptueux, quoi. Voilà. Donc vraiment, moi, je suis hypé par celui-là.
Donc, PES, pour toi.
Complètement.
Okay.
Ok, allez, on va passer à Nico qui va nous parler du gameplay, de la vidéo du gameplay de Cyberpunk.
Alors oui, tout à fait. Alors c'est déjà pour vous dire le jeu que j'attends le plus, parce que je trouve que c'est une claque du premier gameplay, surtout qu'ils ont publié avec 45 minutes quand même de gameplay, hein, ce qui est énorme. Alors que le jeu n'est pas encore annoncé, on n'a pas de date officielle, l'attente va être longue. On pense que ça pourrait être peut-être l'année prochaine.
On connaît pas les supports encore.
Ouais, voilà. J'ai
PlayStation 5, Xbox 2.
Ça a été officialisé.
Ouais.
J'espère, parce que je veux que l'attente ne soit pas super longue.
C'est le genre de jeu, de toute façon, qui moi, surtout les
supports. Oui.
Voilà, oui.
Moi, je pense que c'est comme on avait dit à la dernière émission, ils vont nous les sortir, voilà, quand la PS5 et la prochaine Xbox vont pointer le bout de leur nez, il va y avoir des gros patchs dessus, et puis voilà.
Vas-y, Nico, après, le mettront. Mais oui, c'est vraiment une claque, surtout qu'en plus, je ne connaissais pas. En fait, je me suis intéressé à ce jeu parce que voilà, je suis un fan de The Witcher et justement, donc c'est CD Projekt qui s'occupe de ce jeu, qui s'occupe aussi de Cyberpunk. Et donc du coup, en fait, quand j'ai vu ce premier gameplay, je l'ai trouvé magnifique.
Et toi, ton avis alors sur la première personne, ça t'a choqué ou ça t'a déçu, ça t'a...
Eh ben non, j'ai vu pas mal de critiques par rapport à ça, justement, des gens qui disaient...
Ah, moi, j'étais un peu déçu, ouais. J'aurais aimé l'avoir en troisième personne.
Ouais, mais je trouve que la première personne, niveau immersion, c'est vraiment le must. C'est-à-dire, je trouve que pour ce jeu, c'est super. C'est-à-dire, quand on se balade dans la ville, c'est incroyable, on a vraiment l'impression d'y être.
Ouais, c'est assez fou, c'est fou.
C'est ahurissant, ce
jeu. Et puis, il y a un truc, moi, qui m'a fait halluciner, je sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas de menu, en fait. Quand tu t'upgrades et tout, tu prends dans les Deus Ex, les machins, t'as toujours un menu. Mais là, en fait, tu vis le menu.
Ouais.
En fait, t'es chez le mec, il t'upgrade. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
C'est Dead Space qui avait un peu lancé.
C'est génial ça.
Ah
ouais,
c'est Dead Space qui avait lancé un peu l'idée déjà à l'époque. Hein, où le...
Par contre, moi, un petit truc qui m'a. Bon, c'est un détail, mais j'ai trouvé ça très basique.
La voiture.
Non. Enfin, l'univers en lui-même, même si c'est du cyberpunk, j'ai trouvé ça très propre et très basique. en fait. Y a, ça, c'est voilà, générique, merci. C'est ouais, c'est du cyberpunk, mais on l'a déjà vu 150 millions de fois, quoi. C'est voilà, ouais, exactement.
Je pense que, là aussi, faut pas oublier que c'était une.
Ben, moi, je suis pas du tout d'accord avec vous, les gars.
C'était une build de présentation, faut pas oublier ça. C'est-à-dire que bon, c'est une note d'intention, quoi. Il y a une quête secondaire qui était présentée. C'est déjà pas mal qu'elle dure 45 minutes. Hein. On va dire que on n'a pas les alternances, je crois, jour nuit. Enfin, on est sur du cyberpunk de jour. Enfin, je crois que l'idée c'était de nous présenter un petit peu l'esprit du jeu. Donc l'idée c'était de présenter le je crois une note d'intention sur le jeu. Ça va peut-être pas représenter tout le gameplay ou toute l'histoire du jeu. Je pense.
Moi là, je veux juste intervenir, c'est que justement en termes d'immersion, dans la plupart des jeux. Qui essaye de te donner l'immersion que tu vis le jeu. Des fois, tu as des échanges de dialogue avec des PNJ, machin et tout, qui sont juste à chier, quoi. Ah oui, le mec, il est là, il est tout statique, tu vois, comme le dernier.
Mass Effect 1 dans le
C'est juste horrible. Et il y a une phase dans les 45 minutes de gameplay dont tu parles, Nico, à un moment où la meuf.
Avec le gang.
Ouais, et il y a une prise de tension là, mais qui était énorme. La gestuelle des gars et tout, à un moment il vient vers toi, il te regarde comme ça et tout, enfin. Mais terrible, c'était génial. Bien sûr, c'est simple. Mais au moins les ingrédients de la cohérence d'immersion étaient là.
Ah mais moi je te parle pas de la simplicité de toute ta gueule. Je te parle pas de la simplicité de tout ce qui est gameplay. Je te parle de l'univers en fait. Voilà. Ah mais j'ai pas dit que ça collait pas. J'ai juste dit que c'est un univers cyberpunk qu'on a déjà vu.
Justement. Il y a un pote qui m'a dit j'ai adoré la vidéo. Mais putain t'as vu ils mettent encore les barres de vie au-dessus des gars et tout. J'ai fait mais les gars. T'es dans un monde néo-punk futuriste, tu vois. C'est tout à fait logique que toi t'es à moitié cyborg, que t'es les informations du gars, tu vois, qui apparaissent, quoi.
Putain, t'imagines, dans le futur, on a une barre de vie, quoi. Tu sais quand tu vas mourir et tout, quoi.
Ouais.
J'ai une barre.
En tout cas, pour revenir au niveau du gameplay, CD Projekt, ils sont très forts pour faire de l'écriture, de la belle écriture. Ils l'ont prouvé avec The Witcher 3, c'est-à-dire que on peut espérer un jour, il n'y aura pas des cas de FedEx, genre va livrer 3 doses de méta, machin truc. Voilà. Donc ça a l'air d'être dans l'esprit de ce jeu, donc c'est déjà bien ça.
C'est bon pour Cyberpunk ?
Oui, c'est tout.
Allez, on va parler, alors Landry et Jules et un petit peu Guillaume vont parler du Marvel Spider-Man sorti sur PS4.
Bon. Tout à fait.
Alors, on va commencer par qui ?
On va commencer par moi. Alors, on vous cachera pas dans la ligne éditoriale de Wata qu'on a été nombreux, on a été au moins 3 à jouer à ce jeu et qu'on n'a pas des avis identiques, ce qui est plutôt bien parce que voilà, on peut déjà d'ores et déjà vous annoncer qu'on va le tester, le jeu, on va faire un test précis où on échangera sur nos points de vue. Mais bon, moi personnellement, j'ai fini le jeu, je l'ai complété à 100%. J'ai même acheté, ce qui est assez rare de moi, les DLC pour avoir un petit peu de rap de jeu. Donc, j'ai bien aimé. C'est un jeu passionnant. Après, on a échangé. C'est un jeu passionnant et en même temps, c'est probablement le jeu le plus random que j'ai vu. C'est-à-dire que c'est Assassin's Creed, Arkham Knight. Enfin bref, c'est un mélange, c'est un pot pourri de tout ce qui a bien marché dans les jeux de super-héros. Et donc voilà, moi je perso j'aime bien, voilà. Mais c'est vrai que je peux comprendre aussi que toutes ces influences là plaisent pas forcément, voilà.
Bah, mon avis va être un peu plus tranché, c'est que moi j'ai globalement une grosse déception parce que j'ai été accro sur, enfin accro c'est un gros mot, mais j'étais fan de Spider-Man 2 sur PS2 et sur Xbox One et je m'attendais à retrouver un gameplay à peu près Xbox première, exactement. Un gameplay à peu près identique, c'est-à-dire un gameplay de déplacement à deux mains, quoi. Gâchette gauche, gâchette droite, main gauche, main droite. Et là, en fait, il y a tout qui est automatisé, c'est-à-dire qu'on a une touche de course, il court au sol avec, on saute, il envoie la toile, on colle sur un mur, il court sur le mur, donc c'est super joli, ça rend super bien. Mais il y a un manque de profondeur de ouf, et c'est-à-dire que, en termes de gameplay, c'est vraiment un manque de profondeur. Et j'ai l'impression, moi j'ai pas fini le jeu à 100%, j'ai joué 6-7 heures, pas plus. Mais j'ai quand même grindé pour essayer d'augmenter un peu, choper les capacités. Et tu te rends compte que bah, tu vas à la même vitesse du début à la fin du jeu. Il n'y a pas d'augmentation de la vitesse de Spider-Man. Alors que dans tous les autres jeux, il augmente petit à petit. Et ça, ça crée une sensation un peu bizarre de ça manque de punch et de, c'est, le mot c'est grisant quand on joue à Spider-Man et là je l'ai pas retrouvé du tout. Franchement pas grisant du tout pour un sou. La toile qui s'accroche aux immeubles, ça c'est vrai. Enfin, on peut pas leur reprocher, c'est bien, c'est fait, c'est propre et tout. Mais on peut pas déterminer si elle va aller à gauche ou à droite quand si. On est entre deux immeubles. Ah non, je suis sûr des fois non.
Ah,
il n'y a pas tout le temps, tu vas voir, à 90% des cas ça marche, et 10% tu dis, bon là je vais aller à droite, et tac, il va se coller à gauche.
Est-ce que tu penses
même
pas qu'ils
en
ont
tournant
voulu,
le joystick à droite.
Est-ce que ouais, tu penses pas qu'ils ont voulu le rendre grand public le gameplay peut-être?
Si, il y a ce côté-là, mais ils pouvaient concilier les choses, je pense, le rendre accessible tout en, ouais. en amenant une marge de progression quand même dans les déplacements. Et,
Parce qu'en fait, toi, pour ta part, tu l'as trouvé peut-être trop facile, c'est ça?
C'est même pas facile, c'est un manque de. Tu sais, quand tu joues à un pur jeu, tu jubiles, tu vois. Ouais. Ta manette, tu jubiles et tout, et là, j'ai pas retrouvé ça.
Manque de finesse.
Ouais, ça. Et niveau combat, pour finir, un manque d'équilibrage, mais absolu, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des techniques qui va one-shoot toute une zone, et il y a des techniques qui servent à rien. Enfin, qui servent à rien, elles servent, mais elles vont beaucoup moins être efficaces. Par exemple, il y a une technique, on appuie sur un bouton, Spider-Man il tourne, et il envoie plein de toiles. Ben, genre, il y a un clip qui se passe avec, je sais pas, 6, 7, 8, 9 ennemis. On arrive au milieu, on appuie, tout pis, et allez, c'est bon, c'est fini, on a gagné le truc. Et ça gâche, qu'il n'y a plus ce côté, je vais faire des beaux combos pour gagner de la puissance et les défoncer vite, quoi.
Ça t'empêche pas de les faire.
Non, bien sûr, mais tu me comprends, tu vois.
Oui, bien sûr.
Tu vois ce que je veux dire.
Techniquement, tu l'as trouvé comment, le jeu?
Techniquement, super propre, super fluide, vraiment assez impressionnant.
Il tombe bien, pas d'ralentissement, parce que c'est quand même, de ce que j'ai pu voir, c'est quand même assez monumental. Hein.
C'est des gros immeubles,
c'est
beau et tout,
pas mal de passants.
Une belle claque quand tu vois la première fois de nuit, c'est une belle claque.
D'accord.
Avec les lumières et tout, c'est super bien foutu.
D'accord.
Mais plein de petites frustrations, quoi. Donc, une petite déception pour ma part. On en parlera mieux pendant le test.
La durée de vie du jeu.
Mais moi, je l'ai pas fini, donc.
Mais tu l'estimes à combien même si tu l'as pas fini?
En gros, c'est 25 heures, 25-30 heures.
Ouais, 30 heures. Moi, j'ai mis 30 heures.
Ouais, voilà, Landry, il a mis 30 heures. Ouais.
D'accord.
Donc, okay. Ouais, déception. Après, si on est fan de la licence, ça peut le faire, hein, parce que c'est agréable à jouer, quoi.
Justement. Alors, moi, je me suis éclaté, parce qu'il y a aussi le fait que je collectionne peut-être les comics depuis que j'ai 10 ans.
Je crois qu'on a le même problème tous les deux.
Je vais parler du gameplay, on en a parlé. Niveau fanservice, en fait, le traitement qu'ils ont fait sur Spider-Man, ils ont fait le même que sur Batman Arkham.
C'est-à-dire
ils se sont appropriés l'œuvre.
C'est du spy des porn.
Ils ont pris tout ce qu'il y avait dedans et ils ont fait à leur manière. Et franchement, c'est absolument génial de voir Spidey là-dessus. Alors, c'est pas un Spidey qui est là, qui vient juste. Toi, ta gueule. C'est pas un Spider-Man qui vient juste d'être Spider-Man, hein. Il a déjà quelques années de service derrière lui. La fin m'a fait chialer.
Il a pleuré, peu cher.
Pareil.
On
a pleuré tous les deux.
Pas de spoil, les gars.
Fallait pas faire ça.
C'en est déjà trop.
C'est bon. Après, hein, on peut souffler de ma gueule. J'en ai rien à branler.
Non,
c'est vraiment bien le scénar. Alors, moi, j'ai vu plein de sites qui disaient que
les mecs, ils ont pleuré quand même. Spider-Man.
Mais tu sais que mes premières larmes dans un comic, c'était dans Spider-Man.
Gwen Stacy.
C'est quand Ben Reilly mourait.
Ah ouais.
Donc voilà. Bon. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus.
Ouais, gros fan de service, quoi.
Ouais, non, gros fan de service, gros fan de service.
Le scénar a pioché dans les meilleurs comics de ces 10 dernières années.
Moi, ce que j'ai vu, c'est que sur certains tests, ils critiquaient un petit peu le scénario en disant, ouais, ça s'essouffle et puis ça finit vite. Putain, les gars, je sais pas à quel jeu vous avez joué, mais c'est pas celui que j'ai joué. Voilà. Donc,
Je pense pas que ce genre de jeu, c'est un jeu où on met ça, c'est clairement le scénario en avant. Je pense pas. Je l'ai pas testé. C'est un avis que j'ai juste dans ce genre de jeu, dans cette catégorie de jeu. Je pense pas que c'est la chose la plus importante. Je pense que c'est la sensation que tu vas avoir, la profondeur de jeu, la beauté, etc. Voilà, le scénario va peut-être être secondaire. Bien évidemment, il va apporter une touche importante si c'est bien fignolé, justement. Mais c'est pas, je pense pas qu'ils mettent en avant le scénario dans ce type de jeu. Après, bon, moi, de ce que j'ai vu, il me donne envie. Donc, j'ai pas encore l'occasion d'y jouer, mais.
Ouais, moi je rejoins un peu tout le monde dans le sens où j'y ai pas joué, mais j'ai ressenti un peu le même avis que tout le monde. L'avis de Landry pour dire tu vois, ça a l'air beau, j'ai envie d'y jouer, ça a l'air de bouger nickel et tout. Le côté gameplay un peu one touch comme l'explique Julien, tu vois, qui moi me rebute mais totalement.
Bah c'est le gameplay d'Assassin's Creed hein.
L'histoire de Spider-Man que moi j'aime bien, donc je rejoins le côté Guillaume, tu vois, donc je suis partagé par tout ça. Et malheureusement, c'est un peu la sauce qu'on nous sert depuis pas mal de temps dans les grosses licences comme ça. Il faut que ça plaise à tout le monde, il faut que ce soit accessible. On va faire quand même quelque chose de sympa pour les plus âgés, tu vois.
Du coup, c'est oubliable.
Voilà, c'est dispensable. Ouais, voilà. Mais n'oublions pas que dans cette émission, on avait parlé des jeux. Les jeux qui tiennent à cœur, c'est-à-dire que les jeux 20 ans après, tu t'en rappelles, et je pense que celui-là va être vite oubliable. C'est malheureux, mais
moi, c'est comme j'ai dit à Landry, nous, je pense qu'avec Landry, ça nous a marqué parce que c'est Spider-Man. Parce qu'on est fan.
Non, mais les Arkham, c'est pareil, hein, ça nous a marqué parce que c'était Batman, hein.
Exactement.
Je crois que malheureusement, c'est des jeux qui sont marketés pour les. Je sais pas, moi je le vis pas comme ça. Je pense que c'est les jeux qui, dans tous les cas, ont été marketés pour les fans.
Bon, après, je reviens sur ce qu'a dit Karim, que on mettait pas en avant les scénarios. Mais en fait, moi, Batman Arkham et Spider-Man, ils m'ont marqué. Pourquoi ? C'est pas pour le gameplay. Hein.
Non, il y a de l'histoire. Il y a de l'histoire.
Arkham, l'ambiance de ouf, c'est pas un monde ouvert. Ça, je pense que ça y fait beaucoup aussi qu'il soit marquant. Et le monde de ouf, l'asile, le Joker qui tague dans ce jeu.
Mais les Arkham, je crois qu'ils avaient été signés par Dini, non?
Oui.
Ils avaient été signés par Paul Dini, je crois, les scénarios.
Oui.
Donc, non, c'est lui qui avait fait les Batman les plus connus, c'est-à-dire la série animée des années 90.
Ouais. Allez, c'est bon, on a dit ce qu'on avait à dire sur Spider-Man.
On en garde sous le coude, il y a un test.
Le test à venir sur Wata. Allez, avec Nono, on va parler de la bêta de Forza Horizon 4.
Oui, alors j'en ai parlé tout à l'heure de Forza Horizon 4. Je vous donne juste un peu plus de détails. Donc la grosse nouveauté de Forza Horizon, c'est les saisons. En fait, ils ont fait un système de mode de saison où tu vas jouer l'automne, l'hiver, l'été, le printemps, et tu ne peux pas choisir. C'est-à-dire que là, si tu commences ton jeu en automne, tu dois faire ta semaine de challenge et d'events en mode automne. Voilà. Une semaine, ouais, à peu près.
C'est une semaine par saison.
Une semaine à peu près. Et je trouve ça juste génial. Parce que ça t'impose un style de conduite par rapport à ça. Alors, à l'automne, t'as la route qui glisse un peu plus, t'as les machins. Faut savoir que dans Forza Horizon 4, le gameplay est paramétrable du mode newbie au mode expert où vraiment t'as des bonnes sensations de conduite. Donc ça rejoint un petit peu l'idée de Spider-Man où ils auraient pu, avec machin quoi. Et juste ça, c'est génial. J'ai essayé tous les modes. Le mode newbie, gros, t'appuies et tu fais rien d'autre. Ça va tout seul, tu vois. C'est limite, tu vois. Et le mode expert, ça rejoint, pour ceux qui connaissent un peu, le mode Forza Motorsport en mode médium, on va dire. Voilà, en mode intermédiaire. Donc tu as des sensations de conduite qui sont franchement bien sympas. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Se rajoute à ça les saisons. Donc les circuits, quand tu vas hors route, tout ça et tout, ça influe en plus de ça sur ton style de conduite. Donc j'ai pu tester l'hiver, parce que dans la démo ils te font un peu tester tout. L'hiver est sympa, voilà, c'est pas l'un des meilleurs modes. L'automne c'est juste magnifique et ainsi de suite. Donc ça joue sur les saisons comme ça. Et ensuite il y a les events de Forza qui sont toujours là. Dans le Forza 2 ils y étaient déjà. Et ce petit bémol, c'est un peu dommage pour moi. En gros, tu vas faire une course contre un hydro glisseur qui fait 25 mètres de long, tu vois.
Ouais.
Voilà, et tu dois le battre. T'es en voiture de rallye par exemple, tu dois battre des motocross dans la nature comme ouais. ça. Et ainsi de suite. Et moi, j'aurais aimé qu'on ait le choix de piloter les motos et l'hydroglisseur pour ces events là. Tu vois ce que je veux te dire ? Sur rajouter ce petit peps. Putain, j'ai un hydroglisseur, je dois essayer de battre l'autre. Faire l'inverse en fait, tu vois. Et donc, non, ça reste quand même un PNJ à battre, un petit truc à battre comme ça. Bon, ça donne des sensations sympas parce que ils ont rajouté des petits ralentissements au bon moment, dans les petits sauts, dans les petits trucs comme ça. Donc, franchement, pour ceux qui ont une Xbox One X de préférence.
Ouais. Il vaut mieux avec
allez-y parce que franchement le 30 FPS pour moi j'ai testé il passe crème. Le 60 est un peu plus sympa quand on aime bien l'effet de conduite, quoi, l'effet de vitesse. Et il est Xbox Game Pass. En plus.
En Day One.
En
Day One, ouais.
Voilà. C'est du très très lourd. C'est du très très lourd. J'aurais pas mis forcément 59 euros dans le jeu. Mais là, je vais me laisser tenter de ouf. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, gros jeu multiplayer. Il y a de quoi faire en solo, tout ça et tout. Je vous promets pas un petit test, mais je vais essayer d'en faire un. Voilà.
C'est vrai que moi j'ai essayé, je suis pas du tout jeu de caisse. J'ai essayé chez toi, putain.
Le jeu quand
moi,
a commencé.
Je l'attends, moi, perso.
Quand le jeu a commencé, la première phrase de Guillaume c'est, mais c'est le jeu ça.
Ouais,
ouais, ouais, c'est le jeu.
Mais Forza, en fait, je pense que Forza ça a été, enfin surtout la série Horizon, je pense que ça a été fait un peu pour draguer. En fait, c'est-à-dire qu'on a, c'est comme si tu avais la mariée, tout simplement, quoi.
Ah, c'était totalement voulu par Tandis qui voulait un mode arcade, alors Forza.
C'était stratégique, voilà, complètement. Donc, c'était pour marier, et puis on va rhabiller la mariée, on va faire de superbes textures, on va mettre des superbes bagnoles. Voilà, enfin un monde, enfin avec un temps réel.
En termes de manuels, j'essaierai de vous donner plus de détails. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est autour de 200 et quelques véhicules. Hein.
Ah ben c'est conséquent.
C'est honorable.
C'est conséquent.
Il y aura des DLC, il y aura
tout en rajoutant des voix nazes, comme on disait tout à l'heure.
Et ouais, voilà, comme Nono disait, le truc insupportable, c'est la connasse. Voilà.
Ah ouais, je vous en parle rapidement.
Ouais, c'est super. T'as vu ta tronche, c'est super.
Je sais pas pourquoi. Dans les jeux de caisse. Alors les jeux de caisse, c'est pour les passionnés auto, aussi bien hommes ou femmes. Il y a pas de problème. Il y a des femmes qui adorent ça. Pas de souci. Mais pourquoi nous mettre une bonne femme qui a une petite voix aiguë.
Ça, c'est depuis SSX.
Et depuis SSX, ouais. Et qui commence tous les jeux de course avec « Ouais, c'est super, tu verras, c'est génial, essaye de battre l'autre. » Quand t'arrives à la fin de la course, ça fait « Waouh, c'est génial ce que t'as fait. » Voilà. Ça, c'est franchement, mais on s'en bat les couilles. Enfin, c'est Playground, mon pote. Arrête. Bon. Voilà, passe à autre chose. Mais pas de voix. Tu vois, c'est même pas homme ou femme, mais pas de voix. Mais rien.
Les textes, c'est bien. Voilà.
En plus de ça, les amis, là, c'est le truc, voilà, enfin, tout ce que je vous dis, c'est pas l'essentiel du jeu parce que c'est juste du visuel. En fait, t'as un avatar. Je sais pas où ils ont trouvé les avatars, gros. Ah ouais, mais c'est des bâtards, en fait. Non, mais ils sont moches, mais d'une puissance
moi,
de
fou. Moi, j'avais un black, là. Mais non. Laisse tomber la tête qu'il avait.
En fait, pour moi, ils ont rajouté ça pour faire l'effet de mode Fortnite. Parce qu'en fait, maintenant, quand tu gagnes une course, eh ben, t'as ton perso, il peut faire un dab, il peut danser, machin, tout ça.
C'est vrai qu'il ressemble un peu au gars au
voilà.
Type de...
Mais en moche. Et les animations moches, tout ça et tout. À un moment, dans le jeu, dans la démo, il te dit, t'as un mec de cinéma, il te dit, tiens, j'ai besoin de toi. Il te connaît pas, mais il te dit, j'ai besoin de toi pour conduire une Chiron. Tu vois, roule avec et saute. C'est pour un film. Vas-y, roule avec et saute. Tu vois, et tu vois les mecs, les animations. Tu sais, ils ont tous les yeux comme ça. Ils sont là, va là-bas. Ok, j'y vais. C'est horrible, tu vois. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que Playground prépare un RPG. J'espère qu'ils vont pas utiliser
On va en parler tout à l'heure. Nico va nous parler du gameplay de Assassin's Creed au pays des kebabs.
Oui, tout à fait.
Désolé.
Les Grecs, quoi.
Alors, oui, du coup, je vais vous parler d'Assassin's Creed, donc le dernier qui est sorti, Odyssey, qui a l'air plutôt pas mal. Je trouve qu'il a l'air intéressant. Après, je me méfie quand même parce que j'avais essayé... Voilà, c'est ça. Il y a toujours cette méfiance un peu venant de la part des jeux Ubisoft, malheureusement. Un petit tacle au passage. Parce que voilà, j'avais essayé le dernier Assassin's Creed qui se passait en Égypte. Je le trouvais plutôt beau. Voilà, c'est ça, origine, qui était vraiment magnifique, hein, c'est-à-dire se retrouver dans ce pays, c'était sublime, c'était vraiment cool.
Surtout sur les Xbox One et sur PC.
C'était vraiment, voilà, visuellement, c'était super beau. Mais sauf que j'ai été très vite déçu, c'est au niveau du gameplay. C'est-à-dire qu'ils ont changé totalement de gameplay, ils ont pris un gros virage, on va dire. Et je sais pas, je me suis retrouvé un peu perdu dans tout ça. Je trouve que c'est sympa, hein, c'est plutôt cool comme style de gameplay. Hein,
La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont pensé à ça pour le prochain. Ouais. Et maintenant, c'est je connais plus le terme technique anglais, mais en gros, peu importe ton niveau, tu tomberas toujours sur des gars plus ou moins. Voilà.
Le jeu s'adapte à ta nullité, c'est bien.
Voilà. Du scaling. Voilà.
Ça double tranchant. Donc,
voilà, le jeu s'adapte à ta nullité, c'est,
moi,
c'est génial.
Origine, j'ai tout simplement adoré. Gameplay, combat, tout ça et tout, les animaux, tout ce que tu veux. Franchement, moi j'ai bien kiffé. Bon, il y avait des PNJ qui étaient un peu chelous, mais bon, c'est pas grave. Là, sur le. Moi j'ai été hypé par le Assassin's Creed Odyssey, c'est ça ?
Odyssey, c'est bien ça. Ouais.
Voilà, et parce que voilà, ça se passe en Grèce, la mythologie, tout ça. Il y a déjà eu des spoils qui ont été faits comme quoi. Comme dans Origins, on va pouvoir affronter des légendes de la mythologie, tout ça. Je sais que le jeu va être plus ou moins bon, que le gameplay sera intéressant. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette époque-là ? C'est que je commence à avoir des doutes. En fait.
Moi, je peux te le dire, ils vont faire une espèce de remake de 300, hein, parce que c'est prévu dès le départ, le coup de pied Made in 300. Bon, voilà. Je crois que la période historique est bonne, mais. C'est Ubisoft qui une fois de plus va faire un scénario complètement osef. Enfin, c'est le gros problème des Assassin's Creed, hein, c'est globalement les périodes qui jouent pour la reconstruction plus ou moins historique, hein, mais quelque part l'histoire, ça fait un moment qu'on l'a oublié, quoi. Vous savez, il y en a eu un à Londres à la Révolution industrielle, vous en rappelez
pas ? On l'a oublié totalement.
Non, totalement, voilà. Donc je me dis, tout le monde s'en fout.
On rappelle même plus du titre.
Et de toute façon, les locomotives de l'époque, elles avaient 50 ans d'avance, apparemment, hein, dans le jeu. Donc, je veux dire, on s'en fout.
Moi, je trouve que le gameplay, il est trop inspiré de Spider-Man.
Voilà, aussi, tout à fait. Les prises de main magnétiques.
Voilà. C'est bon pour Assassin's Creed ?
Oui, c'est tout.
Allez, moi, je vais vous parler de mon jeu de l'été, là, qui est sorti sur Switch quand il y a 2 jours.
Non, bah, c'est un jeu de l'été. Ouais.
Ben, c'est mon jeu de l'été sur PC, mais il est sorti sur Switch il y a 2 jours. C'est This is the Police 2.
Ouais, ouais.
C'est développé par Weepy Studios, et édité par THQ Nordic. Alors, This is the Police, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un jeu, on va dire au départ, c'est un jeu narratif où tu dois gérer un commissariat de police, en fait. Tu dois les envoyer en mission, ouais. Gérer un petit peu leurs humeurs, ceux qui n'ont pas envie de travailler.
Le premier du nom, c'était ça.
Les bavures, voilà. Les pots de vin à la mafia, voilà. Ça. Alors, je vais rien dévoiler du studio de This is the Police 2 parce que ce serait complètement spoilé ce qui va se passer, ce serait vraiment gâché. Juste pour vous parler du gameplay, il y a eu quelques améliorations, même beaucoup. C'est-à-dire que vous devez toujours gérer votre commissariat, sauf que là vous êtes dans un endroit, vous êtes plus à Freeburg. Donc Freeburg, c'était un petit peu le Chicago, on va dire, de
c'est ça.
Un Chicago imaginé, quoi. Là vous êtes à Sharpwood, je crois que ça s'appelle. Sharpwood, c'est vous savez, ces endroits enneigés des États-Unis où tu te maries avec ta sœur et où voilà. c'est ce genre d'endroit là hyper sympa. Donc en fait les
Carpentras,
voilà.
Carpentras.
Les flics qui sont chez toi, la plupart du temps c'est des alcoolos. Ils veulent encore moins se lever le matin pour bosser. Alors déjà que dans le premier c'était dur, voilà. Oh. Dans le gameplay ils ont rajouté quoi ? Ils ont rajouté des phases d'assaut qui sont vraiment sympas. Donc c'est du tour par tour. Ça c'est vraiment cool. C'est très stratégique. Faut bien faire attention. Chaque mission, j'ai dû les recommencer 5-6 fois. Un peu
XCOM.
comme XCOM. Un peu comme XCOM. Une patte graphique vraiment sympa.
Ouais.
Et c'est du narratif et c'est vraiment vraiment bon. Et chaque aspect du premier en fait a été amélioré. C'est-à-dire que vous devez gérer de plus en plus de choses. Attention, le jeu est très dur. Il est encore plus dur que le premier. Moi je dois avoir fait la moitié. Bon, j'ai pas joué non plus 50 heures, mais franchement super jeu. Et là il sort sur Switch, tu m'as dit
Switch, ouais.
Voilà.
PS4,
une trentaine d'euros, c'est ça ?
Ouais, 29,99.
Ouais, voilà.
Alors
franchement pour moi c'est vraiment le jeu à acheter. Voilà.
Non, mais le 1, il fallait déjà s'accrocher. Le premier du nom, il fallait déjà s'accrocher.
Le scénario du premier était fantastique. Le 2, tu verras. Bref. Alors, on va passer. Alors, qui est-ce qui va nous parler ? Je crois que ça va être un avis général parce qu'on vient juste de se le télécharger. On y a joué une petite heure. On va parler de Soul Calibur 6. Donc, la bêta de Soul Calibur 6 qui vient de sortir. Alors, qui est-ce qui veut prendre la parole en premier ?
Allez.
Non.
Alors, c'est Julien qui m'envoie un SMS dans la journée qui me dit « Tiens, il y a la bêta de Soul Calibur, télécharge-la, tout ça et tout. » Je la télécharge et tout. Et juste avant de lancer le jeu, j'ai fait putain, c'est vrai, putain, ça fait longtemps que j'ai pas bandé pour un jeu et tout, le combat. On commence à lancer le jeu. Bon, tout de suite, c'est en fait, c'est une bêta test serveur. C'est en gros, ça doit les aider à gérer un peu le lobby.
Il y a,
Il y a 9 persos, tout ça. Le jeu démarre, c'est beau, c'est propre, c'est lisse, voilà, c'est pas de problème. Et tout de suite, plein de nouveautés à la gueule. Il y a plein de systèmes de combat. Ils ont rajouté des effets de ralenti, des contres. Quand tu fais un contre, ça enchaîne une séquence de slow motion où tu dois choisir la séquence de combat que tu veux.
Ouais, un peu à la Injustice 2, mais ouais, en plus punchy, parce que c'était vraiment punchy, long et chiant sur Injustice. Ouais.
Alors, au départ, avec Guillaume... Avec Guillaume, on est les deux premiers à l'avoir testé. On était là un peu déroutés. Ouais, c'est chelou quand même.
C'est biflé, mais...
c'est bizarre. Ouais, le gameplay est là, mais c'est bizarre et tout. À un moment, Landry prend la manette et arrive à faire une esquive de ouf au ralenti. Et là, on a tous vu le potentiel du truc. On a fait oh l'enculé, oh le bâtard. Et en gros, on s'est pris une claque. Julien est arrivé. Il a pris la manette. Bon, il s'est fait défoncer comme nous au départ. Après, il a compris un petit peu. Ouais, ben, franchement.
Totalement faux.
Franchement. Qu'est-ce que
vraiment l'air cool, ça, il a l'air de respecter les originaux, ouais, et avec des petites nouveautés, comme tu disais, techniquement ça casse pas trois pattes, ouais, mais ouais. il fait le taf, donc
moi je vois les deux nouveautés que j'ai retenues. Donc je sais pas comment ils appellent ça, mais en gros c'est les protections qui enchaînent un effet de ralenti où tu peux choisir l'action que tu vas faire.
Ouais.
Et les furies,
ouais.
Avec des animations de furies, mais qui sont juste
un peu à la Street, avec un ultime à la fin.
Après c'est vraiment, ça respecte du Soul Calibur. On a de jolis graphismes, le gameplay est le même.
Daring Out.
Ouais, Daring
Out. Apparemment, il se passe avant le 3, c'est après le 2.
Ouais, je crois bien.
Après le 2,
à la gueule de Mitsurugi qui est bien jeune. Ouais.
Bon, en tout cas, les gars, je l'achète.
Moi, je pense qu'il n'y a pas de ride.
Non, voilà. Allez voir, tester la bêta si vous pouvez, franchement ça vaut le coup.
Tout à fait.
Bon bah c'est bon les gars, on a fini les avis, on va maintenant passer tout de suite aux rumeurs. Alors en fait la rumeur de Nono aujourd'hui, tu vas nous parler de Playground qui préparait un RPG.
Oui, alors l'été a été un peu calme. Les constructeurs sont pas battus à sortir des rumeurs à deux balles ou des trucs comme ça. C'est des projets, bon, on a parlé. Red Dead, il arrive bientôt, tout ça. Donc l'idée, c'est que j'ai commencé à m'intéresser à la boîte d'édition Playground, qui est une boîte exclue à Microsoft.
Un studio exclu à Microsoft.
Et bon, je vous ai raconté un petit peu leur histoire, comment ils sont arrivés chez Microsoft. Et apparemment, ils en sont contents. Et Microsoft leur a demandé de faire un projet. Ça, on le sait, c'est sûr. De RPG aventure. Jusqu'à présent, ça c'était une annonce d'il y a un an.
Non, même pas, c'était à l'E3 ça, non? Quand ils ont annoncé qu'ils avaient recruté tous ces studios. Ouais, même temps, ils ont annoncé qu'ils faisaient ce projet-là.
Ouais, mais avant l'E3, on le savait.
Tu en avais déjà parlé?
Ouais, avant l'E3, on le savait. À l'E3, ça a été confirmé, et à partir de l'E3, alors ça y est, ils vont faire un fab, oui, c'est sûr, c'est un fab. Alors tout le monde allait dans cette direction. Même moi, hein, j'étais là, ouais, bah, ils vont faire un fab, c'est obligé, quoi. Enfin, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de plus, tu vois? Les mecs qui font des jeux de voiture, ils leur lancent le défi de faire un jeu RPG.
Fable Kart.
Enfin voilà, tu vois, donc Fable Horizon 4, enfin tu vois, tu sais pas. Voilà, tu sais pas. Et sauf que il y a pas très longtemps, il y a eu l'anniversaire de la création de
Berserk.
La série Berserk. Et bizarrement, le studio Playground a posé plusieurs artworks sur la série Berserk, ouais, et ils l'ont appelé Berserk Project.
On en voit clairement, c'est Griffiths, voilà, qui est en...
Vous avez juste à taper sur Google Playground Berserk Project et vous allez voir les...
Donc c'est clairement Berserk, y a pas de doute là-dessus.
On vous montre, je vais essayer de vous montrer un peu les images en même temps que je vous parle. Et là, ça a mis une claque à tout le monde. Enfin, à tous ceux qui suivent un peu cette rumeur-là. Donc, on est passé de ouais, ils vont faire un Fable à ouais, ils vont faire Berserk. Moi, aujourd'hui, la question que je vous pose, par rapport à cette rumeur, les gars, aujourd'hui, si Playground doit faire un jeu RPG, est-ce que pour vous, ça serait totalement autre chose, un Fable ou un Berserk?
Si on devait choisir, ouais. Moi, si je dois choisir, c'est Berserk direct.
Ouais, moi aussi,
c'est bien, bien crade avec l'aspect un peu grosse patte des Fables, ouais, et tout, ouais, tu vois, ouais, ça collerait ouais, bien. Ouais. Non, franchement.
Moi, je pense que, ben, je l'ai déjà dit dans les précédentes émissions, moi, je suis hyper fan de Fable, donc j'aurais adoré qu'il y ait un Fable.
Ouais,
mais c'est vrai. Molineux.
Molineux, c'est la purée.
Mais c'est vrai que Berserk, putain, ça titille un peu ma curiosité. Et je pense, comme on le disait hors antenne, je pense que faire un RPG de Berserk, ce n'est pas dénué de sens. Et ça pourrait permettre à la marque Xbox de se rapprocher du marché japonais.
Ouais.
Ah oui, oui.
Un bon
ah, oui.
Non, mais
oui.
C'est stratégique. C'est pour,
ah, oui, oui.
C'est pour draguer un public japonais. Ouais.
Je sais pas du tout ça. Bah, c'est Namco, c'est Bandai. Ouais, Namco Bandai. Ouais.
Le Musso, c'est pas Koei plutôt Tecmo Koei.
Ah,
les Musso, c'est Tecmo Koei. C'est pas. C'est,
ah oui,
c'est
oui,
pas,
oui, oui,
c'est
oui.
Pas Bandai, hein.
C'est peut-être Tecmo Koei
ouais,
qui
ouais.
A sorti, ouais, bon, bref.
Bon, enfin, un mousseau, quoi. Des centaines de gens qui se font
voilà.
À l'épée, quoi.
Ouais.
Non, c'est pas bizarre. Je sais pas la popularité de Berserk aux États-Unis. J'en ai aucune
non,
idée.
J'en sais rien. Mais je pense que la série, vu qu'elle est sur Netflix, ça a dû un petit peu aider le.
Ça a dû aider. Après, je crois qu'effectivement, il y a un marché japonais qui a toujours été dans le focus de Microsoft. On sait que Microsoft peine à y arriver. On se souvient la 360 où ils avaient des tas de jeux Jap exclus en début de 360, hein, avec un grand espoir que justement le marché japonais allait s'ouvrir à Microsoft.
Non mais sans
donc,
déconner,
ils peuvent tenter quoi.
C'est le seul pays au monde où la Xbox se vend pas. C'est que les Japonais
oui.
Ont une mentalité nationaliste de ouf quoi. De ouf, mais pas que dans le jeu vidéo. Mmh. Ils achètent voitures japonais, ils achètent hi-fi japonais,
non,
ils achètent
oui.
Électroménager japonais, ils achètent rien de ce qu'il y a autour
après,
d'eux. Quoi. Ils s'en battent les couilles. Quoi.
La couverture du TGS, comme
c'est un peu les
Corses
de l'Asie. Quoi.
Non, mais la couverture du TGS
ouais,
chaque année,
saucisson Corse,
faut pas oublier quand même qu'au TGS chaque année, donc pour venir, il y a quand même des tas de jeux que vous aurez jamais ici, parce que quelque part, ils sont faits pour sortir uniquement au Japon. Hein, c'est un public aussi. Un peu particulier et je crois que le plus gros problème de Microsoft au-delà du patriotisme c'est qu'ils sont arrivés aussi beaucoup avec les jeux pam pam boum boum à l'américaine qui sont ce qu'ils sont hein, qui sont très bien hein. Et
moi je me rappelle
du
fameux jeu sur 3.6 fait par Miyazaki et une des maisons de Miyazaki
Blue Dragon
et t'avais l'autre Lost Odyssey.
Oui, oui, oui.
Ouais, mais pourri ou pas, mais je veux dire.
C'était
là,
le RPG,
avec,
ça. Ouais.
T'arrives avec du 100% Jap, tu vois, et le jeu s'est pas vendu là-bas et la console s'est pas vendue là-bas. C'est juste que, à un moment, il faut être assez lisse et tu vois et franc. On va parler franco. On dit que souvent les Américains c'est des gros porcs, machin, tout ça et tout. Les Japonais, il faut arrêter de les défendre à un moment, quoi. Avec tout ce qu'ils font en termes de jeux vidéo, on le sort pas en Europe ou aux États-Unis parce que ils sont pas assez intelligents pour le comprendre le jeu ou des trucs comme ça. Enfin, à un moment, il faut qu'ils arrêtent un petit peu.
Il y a aussi les éditeurs français qui veulent pas que.
Mais
que
ça c'est une question de moyens. Ça c'est une question de moyens aussi. Après,
ça te tenterait pas franchement, enfin, parce que tout à l'heure vous pensez, est-ce que c'est Fab ou Berserk? Moi franchement, un Fable, ça me plairait quoi. Toi, ça te
oui, mais
pas.
Le problème c'est que c'est avant Fable, on avait Peter, c'est bizarre.
Ouais,
Peter Molineux qui était derrière. Et on pourra reprocher ce qu'on veut à ce gars-là, qui était chiant, qui était lent, ce que tu veux. Il avait quand même quelque chose, il apportait quelque chose à Fable. Là, il est plus là, le gars.
Ouais.
Et
oui,
tu vas donner à des gars qui faisaient des jeux de voiture de faire un Fable.
Ouais, non, oui, ce serait pas cohérent.
Mais bien sûr. Mais Berserk, la licence est un peu plus connue. Elle appartient pas à Xbox et il y avait pas une entité comme Peter
Molineux
derrière.
Non, parce qu'un Fable aujourd'hui, franchement, je pense que ça serait. Honnêtement, ça serait vraiment pas mal.
Ah bon, un Fable ou.
Moi, je suis.
Il y a tellement rien
fan,
sur Xbox qu'il me sorte un Sonic, je l'achète.
Ouais. Ça, c'est sûr. Moi, un Fable, ça me hyperait parce que bon, après, Fable, ça après, je serais inconvaincu parce que moi, ça, j'ai joué des heures et des heures étant plus jeune.
Ah, le dernier Fable, il était pas terrible.
Voilà. Ouais, voilà. Mais aujourd'hui, avec la puissance qu'ont les consoles, notamment Xbox One X avec 5 millions de teraflops, et milliards de teraflops, Cloud, voilà. C'est ça. Non, très sincèrement, moi, ça me hyperait bien. Bon, maintenant, après, à voir.
On verra bien. En tout cas, ça reste des rumeurs, hein, bien sûr.
Il faut rester connecté.
Bon, messieurs, je crois qu'on a fini pour aujourd'hui.
Oui.
Hein, c'était bien. On était bien, là,
tous les six.
Très bien. Hein, bah oui.
On s'encule.
On s'encule.
Pour une première, ça a été cool, hein.
Eh ben, merci les amis d'avoir été parmi nous. J'espère que on sera aussi nombreux la prochaine fois. Merci à mon petit Corentin qui est derrière la caméra.
Corentin, on t'oublie pas.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. On est sur Facebook, Twitter et on va arriver sur Instagram très bientôt.
Oui.
Allez, merci.
Et une dernière chose aussi, le test de Spider-Man qui arrive bientôt.
Non. Et le mois prochain, on va parler, si on peut, de Red Dead 2.
Non, c'est pas on va parler, on c'est pas peut-être, c'est on va le faire.
On va parler, c'est obligé, voilà. Obligatoire, c'est pas possible qu'on fasse ça.
Allez, on vous dit à très bientôt, à plus. Ciao.
Ciao les gars.
Ciao, les gars. Ciao.